Du pain sur la table.
Dialogue autour de l'Évangile avec André Choquette
et Georges Convert.
Évangile de Jésus selon l'écrit de Jean. Texte de la liturgie catholique romaine pour la fête de la Trinité.
Amen, amen, je te dis, celui qui n'est pas engendré d'eau et d'esprit, celui-là ne peut entrer dans le règne de Dieu. Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Et comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, de même il faut que le Fils de l'homme soit élevé, pour que tout être qui met sa foi en lui ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, l'unique engendré, pour que tout être qui a foi en lui ne se perde pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu n'a pas envoyé le Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui a foi en lui n'est pas sous le jugement. Celui qui n'a pas foi en lui est maintenant sous le jugement parce qu'il n'a pas mis sa foi dans la personne de l'unique engendré Fils de Dieu. Chers auditeurs et auditrices, bonjour. Bonjour André.
Bonjour Georges. Jean l'évangéliste a de quoi nous séduire par la beauté de ses formules comme « Dieu a tant aimé le monde ». Mais aussi nous laisse plutôt perplexes devant le caractère obscur de certaines réflexions comme « Le serpent a été élevé, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Qui ne croit pas en lui est jugé car il n'a pas cru au nom de l'unique engendré. » Qu'est-ce que t'en penses, Georges?
Mais tentons de comprendre le texte et de voir aussi en quoi ce texte nous parle de la Trinité. Eh bien, nous sommes, avec ce texte de Jean, au cœur d'une rencontre entre Jésus et Nicodème. Nicodème est un rabbi, un pharisien, qui connaît bien les Écritures saintes d'Israël. Et il est venu trouver Jésus pour échanger avec lui, car il reconnaît en Jésus un maître spirituel. Mais, comme Jésus n'a jamais fréquenté les écoles de rabbi, Nicodème doit en conclure qu'il est inspiré par Dieu d'une manière toute spéciale. « Rabbi, lui dit-il, nous savons que tu es un maître qui vient de la part de Dieu. » Et cependant, Nicodème vient voir Jésus de nuit. Alors comment comprendre cette expression « de nuit » veut-elle simplement signaler que Nicodème ne veut pas être vu des autres pharisiens et qu'il profite de l'obscurité pour se cacher? Ou bien plutôt veut-il nous dire, et ce serait conforme à la manière de l'évangéliste Jean, veut-il nous dire que les maîtres juifs sont encore dans la nuit, mais dans la nuit de la compréhension de Dieu et de sa Torah, de sa règle de vie? Cette seconde interprétation, d'ailleurs, convient mieux avec la réflexion de Jésus. « Toi, tu es le maître d'Israël et tu ne connais pas ces choses. » Soulignons ici, d'ailleurs, la formule que Jésus emploie. « Tu es le maître d'Israël » et non pas « Tu es un maître en Israël ». « Tu es le maître d'Israël ». Cette formule, peut-être, veut présenter Nicodème non seulement comme un juif fidèle, mais comme le représentant de tout Israël. Et ce que tout Israël ignore, c'est précisément le droit chemin pour entrer dans le règne de Dieu. Eh bien, ce que Jésus va dire à Nicodème, il va le dire à travers lui à tout le peuple juif. Et c'est comme le résumé de l'Évangile que Jésus va prêcher.
Dieu n'a pas envoyé le Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui.
Oui, c'est là en effet une des phrases clés pour comprendre l'interprétation que Jésus fait de la Torah. Alors, qu'est-ce que signifie cette phrase? Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, l'unique engendré. Dieu donne son Fils. Et le verbe « donner » qui est utilisé ici, il faut le comprendre dans le sens de « livrer », comme nous l'indique la lettre aux Romains, au chapitre 8e.
Dieu n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous.
C'est aussi ce que va nous faire comprendre la mise en parallèle de deux phrases. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé, pour que tout être qui a foi en lui ait la vie éternelle. Et l'autre phrase, Dieu a donné son Fils pour que tout être qui a foi en lui ait la vie éternelle. Le parallélisme de ces deux phrases nous invite à penser que être donné et être élevé doivent avoir un sens commun. Comment comprendre « il faut que le Fils de l'homme soit élevé » Ce « il faut » nous rappelle les annonces de la Passion qui ont été faites par Jésus.
Il faut que le Fils de l'homme soit rejeté et mis à mort.
Ou encore ce que le ressuscité dira aux compagnons d'Emmaüs.
Ne fallait-il pas que le Christ souffre cela pour entrer dans sa gloire?
L'élévation doit donc être en lien avec la Passion. Pour faire comprendre de quelle élévation il s'agit, Jean va rappeler un événement de l'Exode, l'épisode du serpent élevé. On se souvient qu'en effet, dans le désert, il y avait eu une invasion de serpents qui faisait de nombreuses victimes parmi le peuple. Et Moïse avait alors dressé, élevé, un serpent d'airain sur un étendard. Et ceux qui avaient été mordus par les serpents, s'ils regardaient le serpent élevé sur l'étendard, étaient guéris. En araméen, la langue qui est parlée par Jésus, le même verbe signifie être élevé et être crucifié. En effet, être crucifié, c'est être élevé sur la croix. Alors, de même que le serpent guérissait les Hébreux, de même, le crucifié va guérir ceux qui mettront leur foi en lui. Bien sûr, ce n'était pas l'objet de métal qui sauvait les Hébreux. Le livre de la Sagesse l'explique déjà au chapitre 16.
Ils avaient un signe de salut pour leur rappeler le précepte de la Torah, de ta règle de vie. Celui qui se tournait vers lui était sauvé, non par ce qu'il avait sous les yeux, mais par toi, Dieu le Sauveur de tous. Car c'était ta miséricorde qui leur vint en aide et les guérit.
Eh bien, c'est donc la miséricorde toute gratuite de Dieu qui guérissait et sauvait les Hébreux, et ce sera l'amour infini de Dieu, sa miséricorde, qui va sauver tous les êtres humains par son Fils élevé sur la croix. La croix n'est pas seulement la décision de Jésus. C'est Dieu le Père qui livre, qui donne son Fils. C'est en pleine communion que le Père et Jésus décident qu'il va livrer sa vie par amour sur la croix. C'est en étant élevé sur la croix que Jésus va donner la preuve suprême de son amour, et c'est là qu'il va révéler le vrai visage de Dieu. Il ne faut donc pas voir la croix comme étant d'abord la conséquence des circonstances politiques qui vont mettre à mort le prophète Jésus. Non, la croix est le choix de Jésus et du Père qui livre, qui donne son Fils, parce qu'il aime le monde. Dieu aime tellement le monde qu'il livre son Fils, son unique.
Comment comprendre ce lien entre la croix et l'amour dont Dieu aime l'humanité pécheresse?
Il est difficile pour nous, êtres humains, de faire spontanément ce lien entre la mort de Jésus et l'amour de Dieu. Et cela, sans doute, parce que notre image de Dieu n'est pas celle que Jésus avait. Nous sommes bien souvent des Nicodèmes qui cherchent encore dans la nuit spirituelle. Comme bien des Juifs du temps de Jésus, nous attendons du Messie qu'il extirpe le mal et qu'il condamne les méchants de notre monde. Nous voulons spontanément, d'une certaine manière, que Dieu juge le monde et condamne les méchants. C'est notre façon de comprendre la justice de Dieu. Et cette image de Dieu, elle est peut-être proche de celle qu'avait Jean le Baptiste, lui qui prêchait un Dieu dont la colère allait se manifester dans le Messie.
Déjà la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu.
Oui, nous attendons le plus souvent de Dieu qu'il fasse régner là enfin la justice contre tous les malfaisants, contre ceux qui exploitent les autres, contre ceux qui abusent des enfants, des petits, contre ceux qui peuvent tuer des êtres qui leur sont proches par l'appât du gain, contre ceux qui s'enrichissent sans souci de ceux qu'ils oppriment et qu'ils réduisent à la misère. Il y a des fautes qui nous semblent, d'une certaine manière, impardonnables. Eh bien, Dieu ne veut pas juger, condamner, mais sauver le monde. Jésus est venu pour nous dire que tout est pardonnable. C'est ainsi qu'il voit la vocation du Messie, sa mission. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Oui, Dieu ne vient pas dans le monde avec la force divine pour briser, détruire celui qui a fait le mal. Cette vision de la justice, c'est la vision du monde. Et pour employer le terme de Jean, c'est celle de la chair. La justice, au contraire, inspirée par l'Esprit, est d'abord miséricorde. Et sa seule force de conviction est celle de l'amour jusqu'au don de la vie. Pour Jésus comme pour Jean le Baptiste, Dieu s'implique dans le monde, mais pas de la même manière. Pour Jean, Dieu vient faire respecter sa sainteté par la destruction du mal et des méchants. Pour Jésus, Dieu vient proposer sa sainteté par son amour, un amour qui va s'exprimer dans le plein respect de la liberté de chacun. Dieu fait lever son soleil sur les mauvais et les bons et pleuvoir sur les justes et les injustes. Toute la vie de Jésus va traduire cet amour respectueux de la liberté. Matthieu, pour nous dire qui est Jésus, reprendra le texte célèbre d'Isaïe qui décrit le serviteur de Dieu.
« Voici mon serviteur que j'ai élu, mon bien-aimé qui m'a plu de choisir. Je mettrai mon esprit en lui. Il ne brisera pas le roseau froissé. Il n'éteindra pas la mèche qui fume encore. »
Jésus dira, « Quand je serai élevé de terre, je tirerai auprès de moi tous les humains. » Comment comprendre, comment traduire? Eh bien, quand je serai crucifié, ma mort, parce qu'elle est un geste d'amour, me donnera de faire venir à l'amour tous ceux qui mettront en moi leur confiance. Oh, la croix n'est donc pas le lieu de la colère de Dieu. Elle n'est pas la rançon qu'il faut payer à Dieu pour racheter les péchés. La croix est au contraire le lieu où le mystère de Dieu se révèle, parce que se révèle sur la croix la profondeur et la vérité de ce que c'est qu'aimer, parce que s'y révèle un Dieu qui a un infini respect d'amour pour tout être humain, même pour celui qui le rejette et le refuse. Oh, puisque Dieu est devenu humain en partageant toute notre condition de créature, eh bien, il ne passe pas à côté de la mort. Dieu se donne totalement en donnant sa vie par amour, et grâce à lui, notre vie mortelle prendra tout son sens. Oui, la mort de Jésus a un sens éloquent. Ma vie, nul ne la prend, dit-il, mais c'est moi qui la donne. Jésus meurt pour répondre par l'amour à toutes les forces de mal qui le rejettent. Nous pouvons, nous devons voir Dieu dans ce geste où seul l'amour humble se propose. Et il se propose pour affronter le cœur de ceux qui se croient puissants et oppriment leurs prochains. Sur la croix, Dieu n'est pas le Tout-Puissant qui peut imposer sa justice, son droit, sa vérité. Parce qu'il est le Tout-Aimant, Dieu ne peut être que le cœur humble, vulnérable à la douleur. Dieu amour ne peut pas s'imposer, il ne peut que se proposer comme sagesse, une sagesse qui seule peut mener à la vie véritable, à la joie durable, à la paix qu'on ne peut arracher.
Mais comment pouvons-nous comprendre que le crucifié nous révèle le visage de Dieu amour?
Bon, cela restera toujours difficile, car comme on l'a dit, notre cœur est spontanément enclin à la justice, plus qu'au pardon. Nous sommes spontanément plus proches du fils aîné, celui de la parabole du père prodigue et de ses deux fils. Pour devenir des êtres de pardon, il faut que nous soyons façonnés par l'Esprit de Dieu. Est-ce que ce n'est pas ce que Jésus signifiait dans la louange qu'il adressait à Dieu ?
Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché ce mystère aux sages et aux intelligents, et de l'avoir révélé aux petits.
Alors pourquoi seuls les petits peuvent-ils comprendre le mystère de Dieu ? Est-ce que nous n'avons pas une réponse dans ce que Jésus disait à Nicodème, « À moins de naître d'en haut, nul ne peut voir le royaume de Dieu. Naître d'en haut, c'est recevoir, recevoir en don l'Esprit de Dieu. » Ailleurs, Jésus dira, « Si vous ne redevenez comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume. » Oui, pour comprendre qui est Dieu, il faut accepter de devenir son enfant. Il faut accepter de se laisser engendrer par Dieu. Nous avons peut-être trop facilement l'habitude de nous dire fils ou fille de Dieu. Peut-être parce que ce titre n'est plus guère différent pour nous de celui de créature. Je suis créé par Dieu, je suis fils de Dieu. Nous mettons cela en équation. Et nous appliquons alors à tout le monde, croyant ou incroyant, le titre d'enfant de Dieu. Oh certes, Dieu se veut le Père et le Père de tout être humain. Mais il appartient à chaque être humain de devenir enfant de Dieu. Oui, nous avons la liberté, Dieu nous a laissé cette liberté de passer de l'état d'être créé à celui d'être engendré. Le prologue de Jean le dit très bien, Dieu a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Devenir enfant de Dieu, c'est avoir la vie éternelle. La vie éternelle, c'est connaître le Père au sens biblique du verbe connaître, qui signifie aimer. Et comment connaître le Père, si ce n'est en devenant fils, fille du Père? Et comment devenir fils et fille du Père, si ce n'est par Jésus, avec Jésus, en Jésus, lui qui est le Fils, l'unique engendré. Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. C'est dans le lien intime avec Jésus que nous pouvons découvrir comment devenir engendré de Dieu.
Voici comment s'est manifesté l'amour de Dieu au milieu de nous. Dieu a envoyé son Fils, l'unique, dans le monde, afin que nous vivions par lui.
Oui, et c'est pourquoi tout être qui a foi en lui, Jésus, a la vie éternelle. Croire en Jésus, c'est mettre en lui toute sa confiance, c'est apprendre de lui ce que c'est qu'aimer, c'est recevoir de lui la force de vivre, comme lui, par lui. On le voit bien, pour vivre de Dieu, il faut vivre de Jésus. Il faut le connaître dans le cœur à cœur de la prière et devenir son ami, mais aussi vivre comme lui, vivre du même esprit, du même amour que lui. C'est ce que dira la première lettre de Jean au chapitre 3.
Voici son précepte, croire en la personne de son Fils et nous aimer les uns les autres comme il nous a donné la directive.
Voilà où se trouve la vraie vie, la vie qui s'épanouit en vie éternelle. Voilà pourquoi aussi, c'est là que se trouve notre mort spirituelle. Lorsque nous refusons de nous laisser engendrer par le Père, lorsque nous refusons de devenir fils de Dieu, lorsque nous refusons de nous laisser aimer par Dieu, nous nous plaçons dans une mort spirituelle. Celui qui refuse l'amour se condamne lui-même à être incapable d'aimer, et être incapable d'aimer, c'est la mort spirituelle. Oh, cette mort ne se décide pas du côté de Dieu qui sanctionnerait le fautif. Car Dieu ne peut que vouloir nous sauver et nous donner la vie. Cette mort se décide du côté de l'être humain lorsqu'il refuse consciemment le chemin de l'amour. Celui qui n'a pas foi est sous le jugement, comme dit l'Évangile. Car il vit sous la crainte d'un Dieu qu'il perçoit comme un juge et non pas comme un père. Mais c'est la liberté de chacun qui détermine ce jugement. C'est notre liberté qui choisit la mort spirituelle.
En quoi ce récit évangélique d'aujourd'hui est-il un récit sur la Trinité ?
Eh bien, c'est vrai que nous n'avons pas ici une formulation semblable à celle d'un credo. Je crois en Dieu Père, je crois en Jésus, Fils unique du Père, je crois en l'Esprit Saint. Mais on pourrait peut-être se poser une question préalable. Est-ce que nous vivons vraiment, nous chrétiens, cette description de Dieu? Quand nous pensons à Dieu, est-ce que nous pensons vraiment à trois personnes? Ou bien est-ce que, d'une façon plus ou moins ambiguë, nous pensons à une même personne qui prend des noms différents? Est-ce que nous ne sommes pas bien souvent tentés de simplifier, soit en nous représentant Dieu comme une unique personne sous trois aspects? Père, c'est Dieu dans son éternité. Fils, c'est Dieu Père qui se fait humain. L'Esprit, c'est Dieu Père qui vit en nous. Voilà une simplification. Ou bien en distinguant si fortement les trois, que nous en faisons trois dieux, et cela au grand scandale des juifs et des musulmans. Dans son livre « Dieu n'est pas bizarre », Jean-Noël Besançon parle ainsi de la Trinité.
Dans le Nouveau Testament, le nom de Dieu reste le nom propre de la personne du Père. De même, dans le credo de l'Église, à l'origine, Dieu, c'est le nom du Père. Toutes les formules anciennes de ce credo sont construites sur la triple affirmation. Nous croyons en un seul Dieu, le Père, en un seul Seigneur, Jésus-Christ, et au Saint-Esprit. Triple confession de foi qui correspond à la triple immersion du baptême.
Alors, soulignons bien cela. Dieu, c'est le nom du Père. Jésus, il est Dieu parce qu'il est Fils. Le credo met ainsi l'accent sur les relations entre Dieu le Père et Jésus et l'Esprit. La vie divine est le don que le Père fait de lui-même à son Fils unique, et le don que le Fils fait de lui-même au Père, et cela dans la communion de l'Esprit. Cette triple relation, elle deviendra le modèle de notre propre relation à Dieu. Nous serons divinisés dans la mesure où nous serons avec Dieu, Père, dans une relation filiale. Et Paul résumera ces trois relations divines dans une formule qui ouvre souvent nos Eucharisties. La grâce de Jésus, l'amour de Dieu, la communion de l'Esprit. Dieu est bien là le nom du Père. Dieu Père est amour qui se donne et donne la vie. Le Fils est amour reçu du Père gratuitement. L'Esprit est le fruit de l'amour donné et de l'amour reçu. Il est communion de vie. Ce qui importe pour nous, c'est de vivre ces trois relations. Devenir, dans la communion de l'Esprit, fils du Père avec le Fils premier-né, Jésus.
Devenir fils, fille du Père. Mais n'est-il pas vrai qu'on peut faire une malheureuse expérience de la paternité humaine? Cela ne rend-il pas la foi en Dieu Père difficile?
Oui, c'est très vrai. Mais cette difficulté ne signifie pas qu'il n'y a pas au plus profond de tout être un besoin puissant d'avoir un vrai père, une vraie mère. En sont témoins, je pense, ceux qui, parce qu'ils n'ont pas connu leur père ou leur mère, les recherchent toute leur vie. L'expérience d'une vraie relation filiale est sans doute indispensable pour que l'être humain puisse vraiment s'épanouir. Car cette expérience d'une relation filiale nous fait faire l'expérience de notre limite, de notre finitude. Elle nous fait découvrir que le centre de notre existence est en dehors de nous, que nous avons été projetés dans la vie par d'autres. Et cette expérience d'être engendré d'un autre, de ne pas être la source de notre vie, c'est la condition d'un amour vrai. Un amour qui regarde chaque autre comme irréductiblement différent de soi. Le respect de l'autre comme unique, c'est quelque chose qui est nécessaire à toute vraie communion. Ces relations paternelles, qui signifient le don, filiales, symbolisées par l'accueil, fraternelles, symbolisées par la communion, ces relations, si elles sont vécues en vérité, sont pour nous, dès maintenant, notre manière de vivre à l'image de Dieu Père et du Fils et de l'Esprit. Jésus qui vit parfaitement cette relation au seul que nous devons appeler Père, lui Jésus peut nous inspirer et nous permettre de devenir véritablement fils et filles de Dieu. Et si la famille de sang est le lieu premier de ces relations paternelles, filiales et fraternelles. La famille de foi, la communauté chrétienne, en est le lieu second. Un milieu tout aussi important, second mais pas secondaire, tout aussi essentiel pour nous permettre de devenir fils et filles de Dieu. Or, posons-nous la question, combien de chrétiens aujourd'hui vivent une vraie famille chrétienne? Et combien de chrétiens vivent un vrai groupe fraternel de chrétiens où ils peuvent tisser des liens avec le Père par l'imitation de Jésus le Fils unique? Pour nous, chrétiens, vivre Dieu, c'est vivre l'amour qui est en Dieu. Notre foi en Dieu trine doit s'exprimer concrètement dans une vie trempée en Dieu qui est amour. Et cette vie baignée d'amour doit porter sur le monde un regard de bonté. Notre regard sur la vie de nos contemporains doit être le regard de Dieu qui a tant aimé le monde et qui n'est pas celui qui le juge et le condamne, mais au contraire celui qui lui sauve en lui proposant l'amour. Bonhoeffer écrivait déjà, et c'était en pleine guerre mondiale en mai 44, alors qu'il était lui-même emprisonné par les nazis, cette phrase superbe.
J'aimerais parler de Dieu, non à propos de la mort et de la faute, mais dans la vie et la bonté de l'homme.
Oh oui, même si le monde peut être cruel, il nous faut voir et faire voir toutes les valeurs de solidarité et de bonté qui se vivent, les dévouements des mères, les engagements bénévoles, les pardons surhumains. Il suffit parfois d'un regard de confiance pour éveiller en l'autre des promesses de beauté qui étaient endormies. L'Église, et donc tout chrétien, n'a pas à juger le monde. Sa vocation est de lui porter un amour inconditionnel, quoi qu'il en soit de ses perversions. Son langage, le langage de l'Église et du chrétien, doivent devenir davantage celui de la tendresse et de la miséricorde. C'est ainsi et ainsi seulement que le chrétien et l'Église témoigneront du Dieu de Jésus.
C'était Du pain sur la table, une émission de l'École de la foi du Catéchuménat de Montréal. Si vous désirez le texte de l'émission ou la cassette audio, téléphonez au numéro 514-254-8750.
514-254-8750. Ou utilisez notre numéro de télécopieur 514-256-1106. Vous nous trouverez aussi sur Internet. Téléphonez-nous, nous vous donnerons l'adresse de notre site.
Du pain sur la table est diffusé le samedi à 8h30 et à 23h. Choix musical et enregistrement, Luc Chandonnet.
Chers auditeurs et auditrices, à la semaine prochaine. Ne laissons pas le pain sur la table sans en faire notre nourriture.